le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et Société. Millions de proches aidants en France soutiennent régulièrement, voire quotidiennement, un parent âgé, un enfant handicapé ou un proche. Qui sont-ils? Comment vivent-ils au quotidien? Quelles ont été leurs expériences lors de l'épidémie de la Covid-19 et depuis? Comment les aider? Pour en débattre, nous avons invité Hubert Stéphan, président du conseil d'orientation de l'EREB, l'espace de réflexion éthique de Bretagne, Danielle Emily, référente UNAFAM, Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques, Françoise Leborgne-Huguin, sociologue, professeure des universités, membre du laboratoire d'études et de recherche en sociologie, le LABERS à l'UBO, et Muriel Rebourg, juriste, professeur des universités, membre du LabLex, laboratoire de droit de l'UBO. Dans le numéro précédent, nous avons décrit les aidants, les personnes qu'ils aident et les professionnels de santé immédiatement impliqués. Pour ce deuxième numéro du Lab U consacré aux aidants, nous nous focalisons sur leurs difficultés et fragilités particulières et sur les risques qu'ils encourent. La parole à Danielle Emily, référente UNAFAM, Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques.
Je vais commencer par du pratico-pratique. Les risques particuliers que courent les aidants, alors, tous aidants confondus, hein, je ne parle pas que des aidants de malades psychiques, c'est l'épuisement. C'est parce que pendant, il faut quand même un certain temps avant de réaliser justement que on n'est pas tout seul, qu'on peut trouver de l'aide auprès de tiers, pas forcément des professionnels au départ, mais ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des voisins, etc. Mais aussi donc des professionnels qui peuvent nous apporter du soutien ou des informations qui, parce que les aidants souvent sont en manque d'informations. Quel risque pour la vie professionnelle? Je vais tricher un peu sur le baromètre de l'UNAFAM qui est paru aujourd'hui dans la presse. Par exemple, 13,4% des femmes disent avoir été contraintes de passer à temps partiel pour pouvoir s'occuper de leurs proches malades. Et 4,1% des hommes. Bon, au départ, quand on pose la question dans nos formations aux aidants, quel était l'impact matériel de la maladie sur leur vie personnelle, ils n'imaginent pas qu'en passant à temps partiel, par exemple, ça fait une réduction des revenus quand ils vont aller à la retraite. C'est occulté et c'est quand on se retrouve à l'âge de la retraite qu'on se dit « Ah ben oui, mais si j'avais continué à plein temps, j'aurais eu plus de revenus. » Bon, ça, c'est les incidences sur la vie personnelle, sur la vie professionnelle. La vie personnelle, c'est bien souvent, je parle encore des maladies psychiques, hein, je suis là aussi pour l'UNAFAM, donc je parle pour toutes ces familles-là qui sont dans beaucoup de souffrances. Mais sur la vie personnelle, c'est l'isolement, l'incompréhension auprès de la famille, proche même, auprès des amis. Donc, par exemple, puisque on peut en parler pendant cette période de pandémie, les fêtes familiales, ben c'est toujours très très compliqué dans une famille où il y a un malade psychique, hein, pour que les choses se passent le mieux possible. L'incidence sur la santé, les gens reconnaissent que finalement, ah oui, tiens, au fait, oui, j'ai eu un cancer, j'ai eu du diabète, j'ai des maladies cardiovasculaires, etc. Et elles ont souvent des incidences, un lien avec l'apparition de la maladie psychique du proche. Les difficultés relationnelles avec le proche, puisque quand ils sont en crise, c'est très souvent compliqué, c'est toujours souvent conflictuel et vraiment pas facile à gérer. Et les familles ne sont pas des professionnels, donc ça crée des tensions. Hein. Ça peut être très violent.
Parlez dans les micros, absolument. On est à la radio.
Ah oui, ouais. C'est toi qui as le micro. T'as pas le micro ?
Mais bon, je peux reprendre ce que vous avez dit. Vous avez dit que ça peut être très violent.
Oui, voilà. C'est vrai que quelquefois, ça peut être très violent. Ça ne veut pas dire que les malades psychiques sont des personnes violentes, pas du tout. Mais en situation de crise, ça peut être très violent. Il faut quelquefois apprendre à faire face à cette violence pour d'abord pour protéger la personne elle-même et pour se protéger soi aussi. J'ai l'habitude de dire d'ailleurs que quand on a un proche qui souffre de maladie psychique, quand la maladie arrive chez cette personne-là, personne ne sait que ça va arriver. Ça peut arriver chez n'importe qui, à n'importe qui. Quand on demande à une personne lambda de poser un Boeing 747 sur la piste de Kipava, je ne sais pas si ça peut, mais bon, bref, il va lui falloir des années d'apprentissage avant de pouvoir poser l'avion sur la piste. Ben, la famille d'un malade psychique, elle n'a pas de formation comme ça. Hein, et il faut qu'elle trouve les solutions pour pouvoir aider la personne et pouvoir l'amener à se rétablir, avoir le plus d'autonomie possible. Donc ça, c'est très important. Voilà, je crois que
Je vais me tourner vers Françoise, alors voilà. Peut-être. Donc Françoise, vos enquêtes ont-elles permis de distinguer des problèmes majeurs auxquels les services en place ne proposent que peu ou pas de solutions ?
Alors, moi, effectivement, je ne sais pas si je parlerais... En termes de risques, et si j'identifierais des risques, bon, bah, je vois bien qu'il y en a plein. Enfin, il y a plein de situations compliquées. Ce qui est important, sans doute, c'est quand même de regarder deux choses. Enfin, pour moi, c'est en tant que sociologue, c'est de regarder d'une part le répertoire du travail de l'aidant. C'est-à-dire, si on accepte de l'appeler aidant, ce que moi j'ai un peu de mal à faire, mais bah, alors regardons, déplions tout ce qu'il fait.
Vous avez un terme qu'on peut utiliser quoi.
Non, mais non, c'est ouais. Pour moi, ça voudrait être, je ne sais pas moi, un fils soutien, un conjoint soutien. Une femme, voilà, une épouse, bon, je ne sais pas. Oui. Mais donc, déplions déjà l'ensemble des activités de soutien et on va voir qu'il faut extrêmement de compétences, ça vient d'être dit, pour exercer tout ça, qu'il y a quand même des choses qui sont difficiles là-dedans, qui sont des tâches très concrètes, qui sont à réaliser, avec des choses bon, sur lesquelles on pourra revenir, mais des savoirs extrêmement techniques, des savoirs extrêmement, des procédures à suivre. Plus la situation est compliquée, plus le travail de soutien parfois se complique. Qu'il y a aussi bon, tout ce travail concret, pratique, qui est à faire chez soi, qui est à faire quand on accompagne son proche dans d'autres endroits, la ville, l'espace, chez des amis, effectivement, pour réussir à modérer les difficultés, mais aussi qu'il y a tout un travail quand même qui mobilise beaucoup de connaissances. Il n'y a pas que le travail pratique, il y a toute la réflexion, il y a tous les savoirs pratiques que les proches aidants, les tours de main qu'ils ont acquis et qu'ils se construisent petit à petit. Vous dites, ben, on a appris, on a réussi à faire des choses, etc., et qui ne sont pas forcément reconnus de leur entourage, mais pas plus de certains professionnels, qui ont aussi des protocoles, des organisations, des tournées, etc., et qui, du coup, ben, on voit bien que cette cohabitation, elle n'est pas forcément simple, j'y reviendrai. Et puis, il y a quand même aussi tout un travail affectif, effectivement, de modification des relations. Alors que ce qui avait été anticipé pour le futur, c'était quelque chose de l'ordre de l'indépendance, de l'ordre de relations qui favorisent quelque part une vision enchantée du couple ou de l'enfant adulte idéal ou d'un vieillissement comme si on allait tous pouvoir bien vieillir. Donc il y a des figures de ce genre auxquelles qui sont diffusées, y compris par les politiques publiques, y compris les mêmes que celles qui parlent d'accompagner les aidants. Et puis finalement, on se rend compte que ben, tout ce travail affectif, tout ce travail cognitif, quand même, de chercher des données, de fouiller Internet, de chercher dans les revues des mutuelles, etc. Et tout ce travail pratique, ça peut être extrêmement lourd, extrêmement contraignant. Et puis alors, l'autre aspect de la difficulté, je crois, mais aussi du soutien et de l'enjeu, c'est que dans quand même, plus la situation est compliquée, moins le proche soutien va être tout seul. Et effectivement, il a plein de personnes ressources autour de lui. Mais le problème, c'est quand même souvent comment il va faire pour agencer toutes ces interventions et tous ces intervenants pour qu'il y ait un agenda, une vie privée, une routine, quelque chose de, qui donne encore un sens au chez-soi et qui fasse qu'effectivement, ce n'est pas l'hôpital à la maison ou ce n'est pas l'accueil de jour à la maison, etc. Et donc là, il y a quand même des enjeux assez forts de coopération, de concertation, alors avec d'autres parents, dans les fratries, avec le conjoint, etc., mais aussi de concertation, coopération avec des professionnels. Et je pense que c'est important de voir que quand les situations ne sont pas compliquées, eh ben on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de situations, massivement, si je prends les 60 ans et plus, quand on est avec des personnes qui sont qualifiées de peu dépendantes des services d'autrui, eh bien on va avoir plus de 70% de situations dans lesquelles ce sont les proches qui sont les soutiens principaux. Et dans plus de 50%, les proches tout seuls. Et il n'y a que à peu près 20% de situations où il y a des proches et des professionnels en train d'intervenir. Et quand on dit que les professionnels font beaucoup, oui, beaucoup, par rapport à l'engagement institutionnel, par rapport au métier, etc., mais ils ne sont quand même que dans 22 situations sur 100, il y a des personnes qui sont aidées uniquement par des professionnels. Donc, vous voyez bien, ce n'est pas les professionnels tout seuls qui font le soutien aux personnes aujourd'hui de plus de 60 ans qui ont besoin des services d'autrui. Et quand la situation se complique, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a plus que 4% de personnes qui sont en situation, alors on va dire de GIR, tout ça, ça ne nous dit pas grand-chose, mais de classification comme ayant beaucoup besoin de services, il n'y en a plus que 4% qui sont dans des situations où il n'y a que des professionnels qui interviennent. Ce qui montre aussi quand même la limite de notre organisation aujourd'hui dans l'agencement des coordinations entre professionnels. Et là, pour le coup, il n'y a plus aussi que, il faut que je fasse attention à ce que je lise, 19% de situations dans lesquelles les proches sont tout seuls en train de fournir du soutien. Ce qui veut dire qu'il y a 77% dans des situations compliquées, de situations dans lesquelles il y a et des proches et plusieurs professionnels. Et donc là, on est bien dans quelque chose qui est quasiment une unité de travail qui se répartit. C'est-à-dire qui passe avant qui dans la journée, qui intervient à changer son horaire et oblige quelqu'un d'autre à le changer aussi, qui va informer, coordonner, veiller à ce qu'il n'y ait pas d'incident. Et là, on voit bien que le travail du proche, il est quand même extrêmement complexe, extrêmement lourd, et que dans certaines situations, on voit bien qu'effectivement, on parle d'épuisement, ou en tout cas, la question que ça pose, c'est est-ce qu'on peut s'investir sans frein comme ça, parce qu'en plus on n'a pas d'horizon de temps, hein, c'est pas comme un professionnel qui sait qu'il a un week-end qui arrive ou il a une pause. Donc est-ce qu'on est dans l'idée de s'investir sans frein? Est-ce qu'on veut résister au soutien et comment pourra-t-on résister à l'inflation de ce travail? Ou est-ce qu'on est dans l'idée, et c'est souvent une idée partagée, de faire tenir ensemble plusieurs choses à faire et plusieurs acteurs qui vont le faire. Et là, on voit bien qu'il y a quand même tout un concerto qui est assez compliqué, qui est assez stimulant sur le papier, mais qui peut être assez difficile à tenir dans la durée à chaque fois qu'il y a un événement qui fait que la routine est mise en question. Ça peut être une hospitalisation, un souci de santé supplémentaire, ou bien le proche soutien qui a des problèmes de travail, d'emploi du temps, son propre conjoint n'est plus aussi disponible qu'avant, il y a des appels peut-être à d'autres membres de la famille. Et là, on voit bien qu'on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre d'une configuration, quoi, d'un ensemble de gens. Ce n'est pas un aidant tout seul qu'on peut expertiser sur toutes les coutures pour se demander s'il est fatigué, s'il est épuisé, s'il va l'être dans 3 mois, s'il faut qu'il aille en répit après-demain. C'est un ensemble de gens. Alors, sauf que ce que je vous dis là aussi, c'est que quand même, les travaux plus récents ont tendance à montrer quand même que, alors qu'avec notre collègue Simone Pennec, on mettait beaucoup en question cette notion d'aidant principal, il semble quand même qu'on retrouve aujourd'hui le poids de, ben justement, au bout d'un certain temps, il y a des figures périphériques un peu qui s'éloignent, quoi. C'est-à-dire ben, des enfants qui donnaient des coups de main, un beau-frère, une sœur, voilà, qui aussi s'épuisent et qu'effectivement, à un moment donné, il peut y avoir cette hyper-exposition de soi à la situation.
Bien, donc on voit, on a un aperçu des difficultés. Je me tourne vers François Muriel. Est-ce que les législateurs ont repéré ces difficultés? Est-ce qu'ils ont créé, est-ce qu'on a imaginé des obligations particulières pour les professionnels qui tournent autour de ces personnes? Est-ce que ça a créé des droits particuliers? Bon, il y en a quelques-uns quand même pour les aidants. Au regard des difficultés, est-ce que le juriste a bien pris toute la mesure? Et pour finir, est-ce que les gens concernés, les aidants, sont au courant des droits?
Alors, je pense que les difficultés, elles ont été bien exposées. Et je vais parler en premier lieu des questions de conciliation vie personnelle, vie professionnelle et de la question de l'aménagement du temps de travail et aussi de l'indemnisation. Vous savez peut-être que depuis la loi dont je parlais de 2015, on a un congé qui s'appelait le congé de soutien familial, qui s'appelle désormais le congé de proche aidant, et qui permet justement à des proches, de façon assez large, comme on l'a dit, sans forcément de lien de parenté, de stopper leur activité pendant une certaine durée pour pouvoir aider leurs proches. Oui ? Ah, ça marche pas. Et donc, dans les concertations, vous savez, qui ont lieu ces dernières mois, années, sur le grand âge et l'autonomie, des études ont été réalisées. Et il s'est avéré que très peu d'aidants, finalement, prenaient ce congé de proche aidant. Les aidants ne recouraient assez peu à ce congé. Et dans un rapport qui a été remis, d'ailleurs, en mars 2019, là, on a bien souligné ce besoin de conciliation entre la vie professionnelle et le rôle de l'aidant. Mais il faut bien comprendre que la difficulté, je pense, du congé, c'était pas tant de le prendre, c'est que jusqu'à présent, le congé de proche aidant n'était pas indemnisé. Donc, il est vrai que on vit pas que d'eau fraîche. Et donc, ça vient tout juste, d'être modifié, puisque vous avez peut-être entendu dans la presse, puisque ça date de quelques jours, que la loi de financement de sécurité sociale pour 2020 a prévu donc l'indemnisation de ce congé de proche aidant et que le décret d'application est sorti le 1er octobre. Donc, il y a juste quelques jours où on a mis en place cette allocation journalière du proche aidant. Ce qu'on appelle l'allocation journalière de proche aidant, pour compenser finalement la perte de salaire de l'aidant lorsqu'il va s'occuper de son proche. Bon, il y a des tarifs qui ont été mis en place. Alors, 43 euros pour une personne vivant en couple et 52 par jour pour une personne isolée, personne seule. Et c'est une indemnisation qui va être en plus limitée, puisqu'on a droit à seulement 22 jours par mois. Et c'est une durée de 3 mois maximum sur toute la carrière de l'aidant. Donc la problématique aussi de ce congé de proche aidant, c'est qu'on l'a envisagé, bien sûr il peut y avoir des conventions collectives qui soient plus favorables, on va dire, aux salariés et qui aillent au-delà du délai de 3 mois, mais la disposition, on va dire, légale, c'est un renouvellement possible d'un an, mais sur l'ensemble de la carrière, non pas sur l'ensemble de la carrière dans l'entreprise, mais sur l'ensemble de la carrière de l'aidant, de toute sa vie, dans toute entreprise dans laquelle il ait pu aller. Donc, ça limite quand même beaucoup aussi, je pense, l'usage de ce congé. Bon, si ce n'est que cette indemnisation, c'est quand même un premier pas, on va dire, vers peut-être un peu plus d'incitation à prendre ce congé pour les proches qui ont, c'est vrai, je pense, qui payent un lourd tribut aussi sur leur congé classique, on va dire, pour aider leurs proches. Donc ça, c'est une première chose qui a été mise en place. Après, il y a d'autres choses, mais je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, notamment tout ce qui est droit au répit pour les proches, puisqu'on parlait aussi de l'épuisement tout à l'heure. C'est vrai que, l'épuisement des aidants, bien sûr que le législateur en a conscience, c'est un des grands mots de toute la politique publique actuellement, puisque, évidemment, on s'appuie beaucoup sur les aidants pour le maintien à domicile. Donc, s'ils sont épuisés, ça va risqué évidemment de susciter de grosses difficultés pour l'aider évidemment, mais pas que, pour les dispositifs de politique publique aussi. Donc on a aussi mis en place un droit au répit en 2015, mais là aussi bien sûr soumis à certaines conditions, et il faut déjà aussi, on n'en a pas parlé, mais il faut déjà envisager que ce droit au répit, en fait, il est abordé uniquement pour les personnes qui sont attributaires de l'APA, de l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc il faut déjà avoir fait cette demande d'APA, rentrer dans le processus de l'APA, et donc pour que, à ce moment-là, c'est vrai que les aidants peuvent faire l'objet d'une évaluation de leur situation par l'équipe médico-sociale, qui peut aussi leur apporter du conseil et de l'information, mais au-delà de ça, proposer en théorie un relais et un répit à l'aidant qui sera inclus dans le plan d'aide. Bon, je dis en théorie parce que, voilà, après je pense que Françoise pourra en parler mieux que moi au plan pratique. La question du répit, elle est déjà au niveau des conditions. Je vous l'ai dit, il faut déjà être présent et apporter une aide indispensable à la personne qui bénéficie de l'APA. Et en gros, l'idée, c'est ne pas pouvoir être remplacé par une autre personne à titre non professionnel. Donc il faut déjà prouver qu'en fait, on n'a personne d'autre de la parenté ou des amis qui puisse vous remplacer le jour où vous avez envie de partir en week-end pour être aidé, pour être soulagé. Il y a déjà ça. En plus, il faut que le plan d'aide à pas soit saturé. Donc c'est une autre condition. Et puis, il faut que l'équipe médico-sociale ait apprécié donc, ce besoin et l'ait intégré. Donc, bon, au-delà de ça, le financement n'est pas non plus extraordinaire puisque ça permet, on va dire, autour de 500 euros, je crois, d'octroyer, donc d'accueillir, on va dire, une semaine la personne aidée. Donc, bon, c'est évidemment un premier pas, bien évidemment, dans la loi, d'avoir proposé ce droit au répit. Mais je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est plus de mettre en place vraiment et de structurer vraiment ce droit au répit pour le quotidien, de pouvoir avoir vraiment une offre de répit qui soit adaptée sur les territoires et qui permettent effectivement aux aidants d'avoir accès à ce droit au répit, que ce ne soit pas simplement dans la lettre de la loi que l'on trouve ce droit.
Bien. Je vais faire une articulation entre cette partie-là sur les difficultés, il y en a plein d'autres, et la suite, comment les aider, en posant la question à Hubert Stéphan, donc, en tant que représentant d'usagers. À quelle demande d'aidants les institutions ont du mal à répondre et pour lesquelles y a-t-il des priorités, quoi ? Est-ce que là où vous êtes, vous voyez des priorités
Je vais déjà rebondir sur ce que mes collègues ont dit tout à l'heure. Je partage tout à fait leur avis. Il y a un document que vous pouvez télécharger sur Internet qui s'appelle Plaidoyer pour les aidants, qui est fait par APF France Handicap. Je vous lis que le sommaire qui résume ce qui a été dit précédemment. Il y a un moment donné, il faut faire un choix entre aider ou travailler. S'ensuit la fragilisation financière et la précarité, aussi bien de l'aider que de l'aidant. La santé est en danger, aussi bien la santé de l'aider que de l'aidant. De l'aider parce qu'il peut y avoir de la maltraitance de la part de l'aidant, dans la mesure où il est fatigué, il est usé. Et l'aidant lui-même ne pense pas à sa santé, il pense toujours à la santé de l'aider. Une vie familiale bouleversée, oui, c'est vrai que quand on regarde au niveau du handicap, les divorces, c'est courant quand apparaît le handicap. Quand on regarde au niveau des personnes âgées, c'est vrai que chacun a des besoins particuliers, c'est tes parents, c'est pas les miens, etc. Donc ça entraîne aussi des ruptures dans les couples. Pour ceux qui restent ensemble, c'est un couple qui se met entre parenthèses, c'est-à-dire que ce n'est plus un couple, c'est deux personnes qui s'associent pour aider une personne. Et après, il reste la solitude, puisque comme l'a dit monsieur tout à l'heure, et ça s'est vérifié partout, c'est l'isolement, puisque quand intervient ou la maladie ou le handicap dans une famille, on reconnaît ses amis, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus beaucoup. On ne sort plus parce qu'on ne peut pas. On ne se soigne pas parce qu'on ne peut pas, parce que imaginez un aidant qui a la grippe, je ne parle pas du Covid, hein, je parle de la grippe simplement, qu'est-ce qu'on fait de l'aider? Et aujourd'hui, ça se traduit économiquement par deux hospitalisations, souvent. C'est l'hospitalisation de l'aidant d'abord, et puis l'aider parce que personne ne peut s'en occuper. On a parlé du répit. Le répit, sur le plan pratique, bon, c'est bien d'avoir du répit dans la loi, mais concrètement, quand vous avez besoin de répit, c'est-à-dire que vous êtes épuisé, il faut le prévoir 3 mois avant. Bon, c'est compliqué. Donc, au moment où vous en avez besoin, vous n'avez pas de répit. De plus, quand vous êtes aidant, vous êtes aidant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et même si vous êtes en répit, on n'hésitera pas à vous appeler parce qu'on a besoin de vous. Une chose qui n'est jamais prise en compte quand l'aidé est hospitalisé. Souvent, les professionnels, ils ont besoin de l'aidant pour les aider. Et ça, ce n'est pas pris en compte puisqu'il n'est plus à domicile, donc ce n'est pas financé. Mais si une personne est en activité, ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc il faut en permanence trouver des solutions. Et comme j'ai entendu beaucoup d'aidants dire, mais je suis aidant, je suis d'abord un chef d'entreprise. C'est à moi de coordonner, comme ça a été dit tout à l'heure, l'ensemble des intervenants. C'est à moi de gérer le personnel. C'est à moi de faire le DRH.
Merci à Hubert Stéphan, président du Conseil d'orientation de l'EREB, l'espace de réflexion éthique de Bretagne, à Daniel Emily, référente UNAFAM, Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques, à Françoise Leborgne-Huguin, sociologue, professeure des universités, membre du laboratoire d'études et de recherche en sociologie, le LABERS à l'UBO, et à Muriel Rebourg, juriste, professeur des universités, membre du LabLex, le laboratoire de droit de l'UBO. Nous les retrouverons dans le prochain numéro du LabU. Dans cette dernière émission consacrée aux aidants, nous aborderons la question de leur soutien et de leur aide en explorant plus particulièrement l'articulation des solidarités publiques et des solidarités familiales. Faut-il accorder des droits particuliers aux aidants, les soutenir financièrement ou mettre en place des formations spécifiques ? À suivre dans le prochain numéro du Lab U. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.